Hello, hello, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes avec moi Alexis dans l'émission La Classe 974 et je suis votre professeur sur les ondes. Donc aujourd'hui, on va se rendre dans une classe de 5e. Je rappelle que vous êtes sur Radio Soleil 87.4 sur Saint-Paul-le-Port, La Possession, et vous pouvez aussi nous écouter sur internet radiosoleil.re. Et nous sommes également sur RIL. Coucou les auditeurs de RIL qui nous écoutent dans le nord sur 96.2, dans l'ouest sur 97.0, le sud-ouest 98.9 et 97.1, le sud 99.8, le grand sud 99.6 et l'est 98.1. Excusez-moi. Donc aujourd'hui la leçon portera, c'est une classe de 5e, donc c'est une demande d'une maman qui disait effectivement, vous faites aussi les autres, est-ce que vous faites les autres niveaux? Au départ, on n'avait pas pensé, on pensait se concentrer sur les troisièmes. Mais bon, on est là à votre écoute. Il faut rester à la case, je rappelle, les parents, les enfants. Hein, il faut rester à la maison. Donc, vous écoutez de la maison. Donc, j'espère que vous avez mis vos beaux habits comme il faut, etc. Hein. Donc, aujourd'hui, dans la classe de 5e, on a par exemple Nathan. Bon, il y a deux Nathan qui sont dans la même classe, ça arrive. Hein. Abdoul, qui est assez timide, qui est devant, qui a toujours un beau sourire. Lou, qui est toujours bien, bien habillé. Coucou Lou, ça va? Bien sûr, on a des élèves comme Audrey, Lily Rose. Maïdia m'a pas oublié, Audi. Monsieur, elle n'a pas cité mon nom. Non, mais il y a beaucoup. Il y a Chloé, Mathias, tous les élèves qui se trouvent autour de l'île. Vous êtes là avec nous sur les ondes. On va faire un petit coucou si vous avez ici. Hein. Donc, on a par exemple nous au collège, Caroline, Juanita, Sandrine, Annabelle, mais les avez ici accompagnent les élèves autour de l'île, ceux qui ont besoin. Donc, voilà. Avant de commencer ce cours, on va faire un petit peu de blablabla. Non, vous savez qu'on est dans la phase 2 hein, du Covid-19. Donc, par rapport à l'étendue de la maladie, donc surtout ne sortez pas, sortez uniquement en cas de besoin, faire vos courses, etc. Oui Nathan, petite question, le déodorant, est-ce que c'est une question de survie? Pour mon nez, oui, mais tu peux rester à casse, là, t'es chez toi, il n'y a pas de souci. Donc il n'y a pas de problème, je sais très bien que Nathan, tu mets du déo, il n'y a pas de souci, voilà. Donc, un petit coucou à ceux qui nous écoutent, particulièrement à Rachel et sa famille, à Gaël qui se trouve de l'autre côté de l'île. Et je vais faire quand même, avant de commencer, un grand remerciement aux principaux, aux directeurs, aux principaux adjoints, directeurs, directrices des écoles, des collèges, des lycées. Coucou, effectivement, à nos collègues du lycée. Donc, je sais que ce n'est pas évident pour vous de gérer tout ce qui est sur Internet, tout ce qui est géré, effectivement, tout ça. Ils sont présents, ils sont quasiment là, ils travaillent beaucoup plus que d'habitude. Déjà, c'était pas mal. Un grand merci aussi aux enseignants qui ont joué le jeu, hein, qui ont mis leurs cours en ligne, qui envoient des cours sur Internet. Qui travaillent aussi beaucoup en télétravail et qui reçoivent les devoirs des enfants. Je dirais aussi, bon, les parents, ne stressez pas trop, puisque j'ai le retour de certains parents qui disent effectivement, ils sont dépassés le matin jusqu'à l'après-midi, finissent tard, ils sont fatigués, etc. L'objectif, ça veut dire que la continuité pédagogique a joué, que les enseignants ont joué effectivement le jeu, puisqu'ils savent ce qu'ils ont à faire. Mais les parents, soyez tranquilles, soyez cool, faites de votre mieux. L'objectif n'est pas de remplacer le maître, la maîtresse. Faites ce que vous pouvez et surtout pas de stress. J'ai le retour d'une maman qui se trouve du côté de Saint-André avec une enfant au collège, deux enfants effectivement à l'école primaire qui n'a pas d'ordinateur, qui est en panique, qui dit il faut que j'aille emprunter de l'argent pour acheter un ordinateur. Non, madame, tranquille. Les enseignants vont comprendre, il n'y a pas de souci de ce côté-là, faites de votre mieux, c'est ce qu'on vous demande. Donc on va commencer le cours aujourd'hui, effectivement c'est suite à un cours, la suite du chapitre sur la société féodale. Donc le chapitre s'appelle la société urbaine et aujourd'hui on va parler des renouveaux des villes. Donc, avant cette leçon, une petite leçon sur le Moyen-Âge, ou un petit aparté. Bon, quand on parle du Moyen-Âge, effectivement, vous avez les films où on parle du Moyen-Âge, tout le monde a quasiment les mêmes idées, les chevaliers, etc. Et on dit souvent qu'il ne se passe pas grand-chose au Moyen-Âge. Donc, c'est complètement idiot. Le Moyen-Âge date de... C'est une période qui va de 476 à 1492, on en reparlera plus tard, 1000 ans d'histoire. En 1000 ans d'histoire, il ne s'est rien passé. ce serait inquiétant. Et entre le haut Moyen-Âge 476, ce qu'on appelle en histoire le haut Moyen-Âge, le moyen Moyen-Âge, et le bas Moyen-Âge, qui est la fin du Moyen-Âge, en 1000 ans, il s'est passé énormément de choses, sur le plan des avancées, sur le plan intellectuel également. Donc, on ne peut pas dire que ça n'a rien passé. Donc, cette leçon, la société urbaine fait suite, je le dis, à la société féodale. Les élèves ont vu normalement la vie des paysans, comment les paysans vivaient effectivement, ils devaient payer des banalités au seigneur, comment était la seigneurie dirigée par le seigneur, et qu'à la fin de la période du Moyen-Âge, on assistait à une grande période de grand défrichement avec une augmentation de la population et avec également effectivement, on va dire qu'il y a moins... les paysans ont moins de règles, j'allais dire, effectivement, ce qui n'est pas totalement le cas. Mais les seigneurs ont un peu assoupli certaines règles, puisque pour défricher et avoir de nouvelles terres, il fallait effectivement qu'ils attirent ces nouveaux paysans. Donc, le renouveau des villes. Bon, on va commencer d'abord pour parler de l'essor urbain. L'essor urbain, c'est le développement des villes. Donc, c'est vrai qu'à partir du XIIe siècle, l'Europe connaît un renouveau urbain par rapport à le début et avant le Moyen-Âge, du moins le début du Moyen-Âge. La population des villes qui représente à peu près, qui représentait, ça, je commence à bafouiller, on rigole pas, Nathan. Oui, dit monsieur, il bafouille. La population des villes qui représentait environ 10% de la population totale va passer à peu près à 20% au XIIIe siècle. Donc, augmentation de 10% de la population due au grand défrichement et autres. On a des anciennes villes de l'Antiquité qui connaissent une renaissance, qui vont se développer. On a par exemple Florence en Italie. On a des bourgs qui vont se développer aussi autour des châteaux. Donc les châteaux, on avait vu qu'il y avait principalement des villages. Vous avez dans les seigneuries le château, le village. Et là, on va avoir effectivement des petites villes qui vont se mettre en place, qu'on appelle effectivement les bourgs, ce qui va donner le mot bourgeois, les habitants des bourgs, donc des villes. Donc ces bourgs se développent autour des châteaux et on a aussi des villes nouvelles qui apparaissent à l'initiative souvent du roi ou bien du seigneur aussi qui trouve une occasion ici d'avoir une ville nouvelle. Souvent, si je rappelle mes cours de l'université qui remontent à très 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 longtemps, vous avez des villes, ces villes nouvelles souvent se terminent par Yé comme Gennevilliers. Et vous avez les villes beaucoup plus anciennes, par exemple, se terminent par I d'origine latine comme Chantilly. Donc oui, c'est Chantilly n'est pas seulement de la crème Chantilly, bien sûr. Oui, bon, ça va me donner faim tout ça, je vais me calmer. Donc, on a effectivement un essor des villes à partir du après le XIIe siècle et au XIIIe siècle. Bon, quelles sont les causes de ce développement des villes? Donc, on a dit effectivement c'est lié à l'expansion des campagnes. On a un renouveau dans les campagnes. Les surfaces cultivées s'étendent, les grands défrichements. Les grands défrichements, c'est-à-dire on va effectivement, pour gagner de la terre, les terres cultivables, on va gagner sur la forêt. On va retirer les arbres, on va défricher. C'est souvent les seigneurs qui sont à l'origine de ce défrichement, puisqu'ils vont autoriser les paysans à défricher et gagner de l'espace de terre sur la forêt, puisque je rappelle que la forêt elle est réservée aux seigneurs qui ont droit de chasse, et les autres n'ont pas le droit d'y aller, par exemple, et ce qui va augmenter la production agricole. On assiste aussi à cette époque d'un adoucissement du climat. C'est intéressant souvent quand au niveau des arbres, on va faire un peu aussi de l'archéologie ou autre. Au niveau de l'histoire, on peut utiliser beaucoup d'éléments. Souvent, vous connaissez l'archéologie, vous allez lire dans les livres et autres. Mais parfois, les arbres donnent des renseignements. Il faut que ce soit des arbres qui soient effectivement centenaires ou autres. On peut retrouver des poutres de cette époque ou autre. Et on va regarder les sillons à l'intérieur des arbres. Et les sillons, comme vous savez, racontent des histoires. Le climat qu'il y a eu à cette époque, est-ce que le sillon est plus grand, plus petit? On peut comme ça remonter le temps et connaître l'histoire. Donc voilà pour la petite histoire aussi. Petite histoire dans l'histoire. Donc on assiste donc à une croissance démographique. Je rappelle les élèves, croissance démographique, vous l'avez vu ça bien sûr dans la leçon de géographie, augmentation de la population. Donc cette croissance démographique va faire en sorte que certains habitants vont aller vers la ville. Donc de nouveaux bourgs qui se mettent en place autour du château. Et on a des villes qui existaient déjà, qui vont effectivement augmenter leur population. Et on a aussi de nouvelles villes qui vont se mettre en place. Donc on assiste à l'essor des villes au Moyen-Âge, à cette période de Moyen-Âge. Essor, effectivement, développement des villes. Donc, cet essor des villes va s'accompagner aussi d'une augmentation des activités de l'artisanat. Donc, les artisans vont commencer à se développer puisqu'on a besoin de ces artisans. Ils vont se pour fabriquer, ça peut être effectivement des outils agraires ou autres. Hein. Ces artisans qui sont de plus en plus nombreux, hein, pour l'époque bien sûr, hein, vont s'organiser et vont se mettre en corporation. En corps de métier. On va se regrouper par exemple, je ne sais pas moi, le cordonnier, les bouchers ou autres, si on parle de corporation. On a effectivement tout type de corps de métier qui vont s'organiser et qui vont mettre en place des règles. Donc, si vous voulez, tiens, mais on va changer un petit peu, je vais vous lire un petit texte. Oui, allez, je me fais plaisir. Si on regarde par exemple la corporation, les règles de la corporation des Foulons. Allez, c'est parti, on y va, les règles de la corporation des Foulons. Bon, là, habituellement, ce sont les enfants qui lisent, hein, donc là, je ne vais pas faire ma voix d'enfant pour lire, il ne faut pas exagérer non plus, mais cette fois-ci, c'est moi qui vais lire. Donc, la corporation des Foulons, donc c'est l'association des Foulons, et ici, on a un texte qui extrait des statuts de la corporation des Foulons à Bruges, donc la ville de Bruges, qui est une ville commerçante à l'époque, hein, qui se développe, et ce texte date de 1303. Donc, le travail des foulons consiste à piétiner dans une cuve le drap mouillé afin de le rendre plus ferme et plus serré. Donc, ils étaient dans une chaîne, effectivement, de fabrication de tissus. Donc, article 1, les responsables puniront ceux qui font mal leur travail. Donc, puniront, à l'époque, ça peut effectivement aller, tous les sens du terme, même punir physiquement. Article 2, le temps d'apprentissage est fixé à 2 ans pour les fils de foulons, 3 ans pour les autres. Donc les fils de foulons avaient un avantage puisque leur père était foulon et ils allaient reprendre le métier. Article 3, les compagnons, donc ceux qui sont effectivement pas totalement apprentis, pas totalement maîtres entre les deux. Les compagnons qui veulent passer maîtres paient au métier 20 sous s'ils sont fils de foulons et les autres 30 sous. Ce qui est une somme importante pour l'époque. Donc, articles 5 et 6, puisque bon, je lis le texte, hein. Nul homme du métier ne doit travailler le soir à la lumière, ni samedi après l'heure de midi. Donc on ne travaille pas le soir à la lumière, puisque vous savez l'expression couvre-feu. Donc, on va couvrir le feu, puisque les maisons étaient en bois ou autre, et ainsi de suite. Hein. Donc, on faisait l'extinction des feux, le couvre-feu, pour éviter qu'il y ait des incendies dans les maisons. Donc, on ne travaille pas le soir, on fait le couvre-feu. Donc, là, c'était un texte sur ce qui présentait la corporation. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'à travers ce texte ou autre, on voit qu'il y a toute l'organisation qui se met en place. Hein. Derrière cette corporation, on a vu aussi l'Église au Moyen-Âge. Il y avait aussi, ils étaient souvent attachés sous la protection d'un saint, puisque la religion jouait un rôle très important à l'époque, et avec la fête du saint ou de telle corporation qui défilait dans les rues de la ville ou autre. Donc, on assiste aussi donc à cette époque à un dynamisme du commerce, puisque le commerce qui existait déjà hein, se développe, mais un dynamisme du commerce urbain. On a des ports qui vont se développer, par exemple le port de Bruges, on vient de voir la ville de Bruges, on a la ville de Venise, hein. Venise qui est une ville qui est créée sur l'eau, qui va se développer énormément à cette époque, Venise en Italie bien sûr, hein. On a aussi les grandes villes de foire. C'est pas la foire, si ça ressemble un peu ça. C'est les villes de foire, c'est là où les marchands vont se retrouver pour pouvoir vendre leurs tissus. On prend par exemple les foires de Champagne, hein, les foires de Champagne où les marchands vont se retrouver. Là, on est dans le nord de la France. Vous avez par exemple la ville de Lagny, la ville de Provins, la ville de Troyes, la ville de Bar-sur-Aube. Donc les marchands vont tourner sur ces foires. On a les marchands d'Europe du Nord qui vont venir sur ces foires, les marchands d'Europe du Sud qui vont venir sur ces foires et ils vont échanger leurs produits. Ils vont acheter et vendre les produits les uns des autres et chacun va retourner dans sa région pour revendre le produit qu'il a acheté en gagnant bien sûr une marge dessus, puisqu'il y a tout le transport, tout ça, etc. Donc, signifie que ces foires vont se développer et devenir extrêmement importantes. Donc, on peut parler déjà à l'époque, pour l'époque, d'un grand commerce qui commence à se développer au niveau de l'Europe. On a les marchands italiens qui vont vendre leurs produits et qui vont souvent aller sur ces foires ou autres. Bon, En allant un petit peu vite aussi, hein, donc plus vite, je sais pas, on va aussi avoir le système des lettres d'échange, des lettres de change, par exemple, ce qui va donner nos chèques. Et ces marchands vont pas se transporter leur argent. Souvent, ils ont, on va dire, une annexe dans telle ville, ou bien un autre marchand une annexe dans telle ville. Ils vont signer une reconnaissance, ils vont déposer de l'argent en Italie, par exemple, reconnaissance d'un argent. Voilà, j'ai déposé telle somme. Ils vont se retrouver, par exemple, à Provins, où ils vont rencontrer le marchand de l'autre côté qui possède cette annexe. Il dit, voilà, j'ai une lettre de change et je voudrais échanger ce que j'ai déposé de l'autre côté, récupérer cet argent. Vous avez tout simplement la naissance du chèque. Puisque le chèque, ce n'est pas de l'argent, c'est tout simplement un moyen de transporter de l'argent. Donc voilà. Donc pour la petite histoire, hein, c'était trop petite histoire? Vous voulez des grandes histoires? Non. Donc voilà. Donc on a aussi bon, les voies maritimes qui vont se développer. Donc le commerce maritime, toujours en Europe. Hein, on va utiliser les fleuves, on va utiliser, on va, par exemple, le commerce méditerranéen, on va remonter par l'Atlantique, etc., vers la France. On a la mer du Nord ou autre. Donc on a tout un commerce qui commence à se développer, qui relie principalement l'Europe du Nord de l'Europe du Sud. Mais on commence aussi à développer un commerce de l'Europe vers l'Orient. Du commerce vers l'Orient, là on verra les conséquences des croisades dans une autre leçon où les croisades, effectivement, on parle plus souvent de guerres religieuses, mais l'une des conséquences, c'est une rencontre commerciale entre d'un côté le monde arabe, le monde de l'Orient et aussi l'Occident. Donc voilà pour l'histoire et les origines. On va assister aussi à une transformation du paysage urbain, paysage des villes. Donc le paysage urbain, je rappelle pour nos élèves, vous l'avez vu, paysage urbain en géographie en sixième, développement du paysage urbain, comment c'est fait, etc. Tout ça, vous l'avez vu à l'heure actuelle, hein, avec les différents types de paysage urbain, ben, c'est un langage qui vous parle bien sûr, là on va l'appliquer à l'histoire. Le paysage urbain était bien sûr complètement différent de ce qui se passe aujourd'hui. Pas totalement complètement différent, puisque quand on va dans certaines villes, aujourd'hui il reste des villes qui ont gardé un aspect médiéval, du Moyen Âge, et on retrouve certains types de paysages urbains aujourd'hui. Quand vous allez dans la ville de Troyes, par exemple, c'est assez sympa. Vous allez vous promener et vous retrouvez quasiment au Moyen Âge, au niveau du paysage, avec des petites rues, des petites maisons, etc. Sympa. Donc, le plus souvent aussi dans ces villes, pour se protéger, on va mettre des remparts autour de la ville, puisque n'oubliez pas qu'à l'époque, le roi commence à prendre du pouvoir, mais les seigneurs se font la guerre entre eux. Bah ouais, ça, ouais, on se rappelle des certaines filles. Bon, je m'emballe pas, je me calme, vous inquiétez pas. Donc, ils se font la guerre entre eux. Donc, on va protéger la ville en mettant des remparts. Quand vous allez, je sais pas, aujourd'hui à Tours, dans des villes de métropole, bien sûr, on n'a pas cette logique à La Réunion, vous allez retrouver des remparts à l'intérieur de la ville aujourd'hui, mais parce que justement la ville s'est agrandie. Déjà à l'époque, on a des faubourgs, donc on a vu les bourgs, les villes, et les faubourgs, sorte de banlieue si vous voulez, si on compare à aujourd'hui, hein, où on va mettre en place effectivement des maisons qui vont se développer tout autour de la ville. Vous avez par exemple des rues sur Paris, Paris était un peu différent, mais vous avez les faubourgs Saint-Honoré, le faubourg des rues faubourg Saint-Antoine. Ces villes sont aujourd'hui à l'intérieur de Paris, Paris intramuros, mais à l'époque, effectivement, ben, ce n'était pas le cas. Ces villes se retrouvaient à l'extérieur de Paris, puisque Paris n'était pas aussi grande que ça. Donc vous avez effectivement la ville qui s'agrandit en dehors des remparts, sur l'extérieur, ce qui donne des faubourgs. Les rues à l'époque sont assez étroites, d'accord? Bon, pour passer, c'est assez compliqué. Sauf dans les villes, les nouvelles villes, les villes les plus neuves, où on a pu agrandir aussi ces rues. Bon, je rappelle qu'à l'époque, il n'y a pas de. Allez, hop, allez, bon. C'est bon, à l'époque, vous n'avez pas le côté assainissement, vous n'avez pas tout ça. Hein. Donc, quand vous marchez dans la ville et qu'on vous disait attention en dessous, on ne sait pas ce que les gens jetaient ou ce qu'il y avait comme liquide qui était jeté par la fenêtre. Sans commentaire, merci. Donc, vous avez aussi ce qui se développe à l'époque, les halles. Si on prend l'exemple de Paris, vous avez au niveau de Châtelet, dans le premier arrondissement, vous avez les Halles. C'est un quartier qui s'appelle toujours les Halles aujourd'hui. C'est là où on se retrouvait pour échanger, effectivement, pour vendre des poissons, pour vendre autre chose, pour vendre la boucherie, etc. Il y a ce petit quartier au niveau des Halles, il y a une petite rue qui existe toujours, qui fonctionne de cette manière. mais bien sûr tout le quartier des Halles, aujourd'hui, qui est devenu une galerie marchande à plusieurs niveaux, a complètement changé. Mais si vous allez en annexe, juste à côté de l'église Sainte-Eustache, pour ceux qui connaissent, il y a une petite rue à côté qui prolonge, et là, vous retrouvez le petit boucher, etc., tout ça, un petit peu comme avant, et avec des endroits où on retrouve parfois des pavés ou autres. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, on ne va pas trop développer. C'est fini pour aujourd'hui. Bon, j'espère que vous avez pu écouter. Bon, ceux qui étaient encore en pyjama ce matin, la prochaine fois, faites un petit effort, réhabillez-vous, etc. Bon, c'est pas grave, je vois rien. Donc, voilà. Donc, merci d'avoir été avec nous sur Radio Soleil et RIL. Donc, surtout, ne vous prenez pas la tête, ne sortez pas. Ne sortez pas seulement pour des urgences, restez chez vous, reste la case marmaille, maman, papa, reste la case. Et le fait que vous soyez confiné, profitez pour trouver d'autres activités. Par exemple, faites du sport. Donc je veux bien faire un cours de PS, mais la radio va commencer à sentir si je commence à faire des pompes, au-delà de deux, moi je suis fatigué, il faut pas exagérer non plus. Oui, bon, d'accord, sans commentaire. Donc faites un peu d'exercice, bougez, les garçons, les filles, trouver des activités à faire avec papa, maman. Donc, bon, après, c'est vrai qu'il y en a qui sont contents de rester à côté avec papa et maman. On a Manon, qui est notre mini-miss réunion, qui est petit gâté de papa, qui est content de retrouver la maison avec papa, maman, etc. Donc, tous les petits gâtés, là. Donc, restez à la maison. Audrey, oui, Audrey, je t'ai pas oublié. Et tous les autres, effectivement, autour de l'île, on ne vous a pas oublié. Surtout, restez à la maison. Faites un peu de sport. Les parents, ne stressez pas. Faites de votre mieux pour aider vos enfants. C'est une continuité pédagogique tranquille. Surtout, ne vous prenez pas trop la tête. Le but n'est pas que le marmal est dégoûté quasiment au bout de 2, 4, 5 jours. Et que vous aussi, on est assez stressé par ce qui se passe actuellement. Ça ne sert à rien de rajouter du stress à tout ça. Faites les choses tranquillement, faites les choses correctement. Vous allez le faire, bien sûr. Vous n'êtes pas des enseignants, on le comprend. Accompagnez votre enfant. Si jamais vous êtes en difficulté, vous prenez pas trop la tête. Faites les choses tranquillement. Donc, notre émission touche à sa fin. Donc, je remercie de nous avoir écoutés. Et on se retrouve normalement demain pour une émission qui concerne le niveau 6e. Donc, il me semble que ce sera Rome. J'ai pas encore tout regardé. Il faut que je consulte mes collègues d'histoire, géographie, UMC pour voir où ils en ont, puisque moi-même, je n'ai pas de 6e. Donc, il faut que je vois tout ça. Donc, je vous fais des gros, gros bisous à tout le monde. Et bien sûr, des bisous virtuels. Surtout, on respecte la distance de sécurité. Tu peux te pousser un petit peu, s'il te plaît. Merci. 2 mètres, 3 mètres. 1 mètre, on dit, mais 2, 3 mètres. Il y en a qui postillonnent, qui font des concours de postillons. Donc, ce n'est pas le moment de les faire. Il faut garder ça pour plus tard, quand on va se retrouver à la fin du confinement. Donc, je vous dis gros bisous à tout le monde. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission, la classe 974 sur Radio Soleil et sur RIL. Coucou à Yann de RIL, coucou effectivement à tous ceux de RIL. Et coucou mes soleils, comme dirait Simi. Allez, au revoir et bonne écoute à vous sur Radio Soleil et sur RIL.